Géopolitique. Marie-France Chatin.
Bonjour et bienvenue dans Géopolitique que vous pouvez également écouter en podcast. Thierry de Montbrial est notre invité pour son dernier livre, L'ère des affrontements, les grands tournants géopolitiques. Comment en est-on arrivé là? Paru aux éditions Duno. Thierry de Montbrial, bonjour.
Bonjour.
Les fidèles à Géopolitique vous connaissent. Vous êtes le fondateur et président de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, et de la World Policy Conference qui se tient chaque année depuis plus d'une décennie. L'Europe fait face à une situation géopolitique inédite, marquée par l'incertitude entourant la politique américaine et l'agressivité russe. La guerre en Ukraine a poussé les Européens à renforcer leur capacité de défense, mais des interrogations demeurent sur leur capacité à structurer une stratégie commune. Les Européens ont compris que les États-Unis ne sont plus un allié fiable pour assurer la défense de l'Europe. Une diplomatie de la force se met en place avec des menaces économiques réelles via des taxes sur les produits que les Européens exportent vers les États-Unis. Un double basculement est intervenu, idéologique et économique. La guerre, par ailleurs, n'est plus un objet lointain, elle devient impossible. L'inquiétude prédomine désormais en Europe, inquiétude mais aussi indignation d'une certaine manière, indignation également colère. L'attitude du président américain constitue un tournant, la géopolitique mondiale est en pleine recomposition. Quel regard portez-vous sur ce qui se passe? Vous évoquez l'idée que nous sommes au début d'une nouvelle guerre froide, voire d'une troisième guerre mondiale, une deuxième guerre froide avec pour principaux acteurs les États-Unis et la Chine. La possibilité d'une troisième guerre mondiale, est-ce que c'est la raison, Thierry de Montbrial, la raison profonde de la publication de votre livre?
Je ne crois pas pouvoir dire que c'est la raison profonde de la publication de ce livre. On va s'expliquer clairement sur ce que veut dire le risque d'une troisième guerre mondiale. En fait, l'objet profond de ce livre, c'est d'inviter ceux qui s'y intéressent à regarder vraiment les choses telles qu'elles sont, en essayant de se dépouiller autant que possible de toute la superpuissance structure, si je puis dire, idéologique, parce que, en fait, tous autant que nous sommes chargés d'idéologie et ça brouille énormément l'analyse de l'environnement international. Voilà. Donc, j'essaye de regarder aussi lucidement que possible, aussi objectivement que possible, d'où nous venons, pourquoi on en est là, effectivement, et par conséquent, quelles sont les perspectives des prochaines années telles qu'on peut les entrevoir?
Alors, guerre froide, troisième guerre mondiale, qu'est-ce que veut dire pour vous, Thierry de Montbrial, guerre froide?
Alors, guerre froide, d'abord, c'est une terminologie qui vient de l'ancienne guerre froide entre les États-Unis et le monde occidental d'un côté, et l'ancienne Union soviétique et le monde dit socialiste de l'autre. Cette guerre froide-là, qui a dominé la scène internationale pendant plus de 40 ans, était assez simple, parce que nous avions deux superpuissances, comme on disait alors, qui avaient très peu d'échanges économiques, notamment entre elles, et qui avaient des satellites ou des blocs qui étaient plus ou moins structurés autour d'eux, avec ce phénomène de la dissuasion nucléaire qui faisait que le risque d'un dérèglement, d'un dérapage vers une troisième guerre mondiale était extrêmement faible. De fait, d'ailleurs, il n'a pas eu lieu. Donc, c'était assez facile à analyser. Aujourd'hui, nous avons plus que deux acteurs dominants. Et il y a au moins les États-Unis, la Chine maintenant, la Russie toujours, comme on le voit bien, et d'autres grands acteurs émergents qui se trouvent idéologiquement dans leur coin, qui revendiquent leur propre identité, comme l'Inde par exemple, qui émerge. Et les échanges existent même entre les États-Unis et la Chine, et ils ont besoin d'échanger entre eux. Mais en même temps, les intérêts fondamentaux sont opposés, ou très largement opposés. Donc c'est une guerre froide beaucoup plus complexe que l'ancienne. Alors, la Troisième Guerre mondiale, le risque de la Troisième Guerre mondiale, renvoie à la situation du monde à la veille de la première guerre mondiale. C'était une époque, donc au début du XXe siècle, c'était une époque qui ressemblait un petit peu à ça, parce qu'il y avait beaucoup de puissances antagonistes, qui étaient en particulier sur le plan idéologique très clairement antagonistes, mais qui échangeaient économiquement beaucoup. C'était même une grande... on a parlé de mondialisation aussi, sur ce qui, de première mondialisation sur ce qui se passait à l'époque. Et il y avait donc beaucoup de conflits, de petits conflits, et le risque, c'était qu'un de ces petits conflits dégénère et engendre une véritable guerre mondiale, et c'est ce qui s'est passé. Et ça s'est passé d'autant plus que le XXe siècle, le XIXe siècle européen avait été calme pour l'essentiel. Il n'y avait jamais eu de dégradation, il y avait eu de multiples conflits, mais jamais de dégradation globale. Donc on s'était habitué à cette sorte de paix, et donc il a suffi d'un dérapage quelque part, pour le Sarajevo en l'occurrence, pour que tout le monde parte gaiement, si je puis dire, vers une troisième guerre mondiale. Le risque, il est là, si vous voulez. C'est le dérapage non maîtrisé.
Et quel pourrait être le dérapage non maîtrisé que vous évoquez, Thierry Montbrial ?
Bien, il aurait pu être déjà, jusqu'à il y a quelques mois, j'aurais dit que le risque était sérieux concernant la guerre d'Ukraine. Mmh. Bon, aujourd'hui, il est probablement... il a probablement diminué ce risque sur la guerre d'Ukraine, en tout cas à court moyen terme. À plus long terme, la question reste à voir. Mais il y a de multiples potentialités de conflits dans les années et décennies qui viennent, comme par exemple du côté de l'Asie, vers Taïwan. Et c'est assez facile à imaginer. Mais vous voyez, historiquement, quand il y a un dérapage comme pour la Première Guerre mondiale, c'est l'incident, le conflit local qui dégénère, par définition, n'était pas, on ne pouvait pas l'anticiper des années à l'avance. L'assassinat de Sarajevo, c'était un incident, en quelque sorte. Et 5 ou 6 ans avant, personne n'aurait pu imaginer cet incident-là. Donc, quand je parle de risque de Troisième Guerre mondiale, c'est comme ça qu'il faut l'entendre. C'est que, quelque part... le plus vraisemblablement un endroit qui n'était pas prévisible dans le détail à l'avance, il y ait en quelque sorte un incendie qui soit allumé, qui ne soit pas maîtrisé.
J'en reviens sur la question de la guerre froide, Thierry de Montbrial. Est-ce qu'on doit craindre au jour d'aujourd'hui un retour à une division du monde ?
Oui, mais il est déjà là, ce retour à une division du monde. Le problème, c'est jusqu'où va la division. Parce que on voit bien que ce qu'on appelait le multilatéralisme, ou la gouvernance mondiale, qui était une condition sine qua non pour que la mondialisation puisse se poursuivre et s'approfondir, tout cela est en train de voler en éclats, en particulier, je dis bien, dans le domaine économique et plus spécifiquement commercial. C'est-à-dire que ce retour à une guerre commerciale, c'est quelque chose qui est d'ailleurs très grave, extrêmement grave, et qui nous rappelle pour le coup l'entre-deux-guerres, entre la Première et la Seconde Guerre mondiale du XXe siècle. Parce que si cette guerre commerciale dégénérait, ce qui est possible, cela pourrait justement entraîner des conflits qui deviendraient très rapidement politiques, voire militaires.
Mais finalement, elle est là depuis longtemps, la guerre commerciale, Thierry de Montbrial. On l'évoque beaucoup depuis l'arrivée de Donald Trump, Trump 2.0 à la Maison-Blanche. Mais avec l'augmentation des tarifs douaniers, cette violence verbale aussi qui prévaut aujourd'hui dans le langage diplomatique et non diplomatique. Mais elle était déjà là. Et finalement, l'arrivée de Donald Trump la révèle au grand jour.
Alors, elle était là, mais bien sûr, elle était là depuis longtemps. L'Organisation mondiale du commerce balbutie depuis un certain temps. Mais... on peut prolonger ce que vous venez de dire. Il y a beaucoup de choses qui étaient déjà là. De toute façon, Trump est un révélateur ou quelqu'un qui accentue toutes les divisions, mais des divisions qui étaient aussi déjà là. D'ailleurs, plus généralement, je crois qu'il faut faire très attention quand on parle des relations internationales de ne pas trop individualiser les explications, dire ben voilà, tout est la faute de Trump ou tout est la faute de Poutine. C'est beaucoup plus compliqué ou complexe que cela. Mais cette accentuation, elle est à la fois dans les méthodes, dans les transgressions. Si on vient à Trump, Trump transgresse beaucoup de choses, comme Poutine a transgressé de son côté. Et puis, cette violence verbale dont vous parlez, alors la violence verbale, c'est un aspect de la violence tout court. Et nous vivons, et pas depuis hier, ni même avant-hier, dans un monde qui est de plus en plus violent, c'est-à-dire les violences physiques, mais les violences aussi verbales. Et plus généralement encore, toutes les codes de conduite volent en éclats. Or, les codes de conduite, c'est pas seulement vieux jeu ou des habitudes d'aristocrates défunts, c'est une manière, une condition même de survie dans la vie quotidienne. Et on voit bien que, sur le plan des gouvernants, cette transgression, là aussi, elle est absolument partout. Je pense, par exemple, au président Milei en Argentine. Je pense aussi, plus généralement, au populisme qui se développe un peu partout, aux difficultés que rencontre la démocratie également sur tous les continents. Donc tout cela est une toile de fond qui est extrêmement préoccupante aussi pour l'avenir.
Et on a tous en tête aussi la violence diplomatique qui s'est exprimée au moment de la rencontre et de la réception du président ukrainien Zelensky à la Maison-Blanche, où c'est vrai que cet entretien a été télévisé, a été d'une violence absolue. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose.
Et contraire à tous les usages diplomatiques.
Alors, on va bien sûr parler de l'actualité russo-ukrainienne. Avant ça, j'aimerais qu'on poursuive sur votre livre, Thierry Mambrial, qui est le fruit d'une réflexion menée depuis plusieurs années en tant que think tanker, comme vous aimez à vous définir, think tanker venant de think tank, le terme anglo-saxon qui désigne des lieux de réflexion à l'influence variable selon les think tanks. Alors, think tanker plutôt que historien, vous avez, au cours de votre carrière, beaucoup lu, beaucoup voyagé, observé les terrains, beaucoup échangé aussi. Et finalement, plus on observe, plus on découvre la complexité des situations. Votre réflexion, dites-vous, est dominée par le réalisme, réalisme par opposition à idéalisme. Qu'est-ce qui caractérise les réalistes, Thierry de Mambrial, et comment expliquez-vous qu'ils soient si minoritaires en France ?
Le réalisme, je vais d'abord dire ce que ça n'est pas. Ça n'est pas la réelle politique. Ce qu'on appelle la réelle politique, c'est-à-dire le fait de raisonner que sur la base des rapports de puissance à l'état brut, justement, les rapports de force à l'état brut, bon, et à la limite le coup de poing ou les menaces d'ordre matériel ou militaire. Et ça n'est pas, par conséquent, car c'est lié le cynisme. Ce n'est pas le rejet de toutes les valeurs liées à l'humanisme, par exemple. Le réalisme, pour moi, c'est tout simplement regarder, avoir le courage ou la lucidité de regarder la réalité telle qu'elle est, sans l'enjoliver ni la noircir, d'ailleurs, et raisonner en conséquence. Je crains, par exemple, que tout ce dont on parle aujourd'hui sur la défense européenne soit trop teinté d'idéalisme, c'est-à-dire à l'écart de la réalité. Voilà, je pense que le réalisme, c'est raisonner avec suffisamment de lucidité pour avoir les meilleures chances de lutter contre l'adversité, de construire quelque chose de nouveau. Un entrepreneur ne peut pas réussir s'il n'est pas réaliste. Ce n'est pas incompatible avec un projet, mais pour traduire un projet, une vision en réalité, eh bien il faut, le mot que je viens d'employer le dit, il faut être réaliste. Donc, c'est ça le réalisme.
C'est cette prise de conscience qu'en fait ce qui prévaut, c'est le rapport de force et le calcul stratégique dans les relations internationales, Thierry de Montboyal.
Alors, le calcul stratégique, sûrement, parce que vous ne pouvez pas atteindre des objectifs. Si vous voulez construire quelque chose dans les relations internationales comme dans la vie, il faut avoir une vision et puis regarder justement comment elle peut être mise en œuvre et élaborer une stratégie pour la mettre en œuvre. Une stratégie, ça veut dire aussi qu'il y a toujours des éléments adverses. Quoi que vous fassiez dans la vie, vous avez des oppositions, des obstacles. Et pour surmonter ces obstacles, eh bien, il faut ce qu'on appelle une stratégie. Alors, rapport de force, oui, mais attention, dans les rapports de force, il n'y a pas que les rapports de force bruts. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les armements ou la puissance économique qui se suffirait à elle-même. Il y a aussi des facteurs moraux. Alors, les facteurs moraux, le mot moral a au moins deux grands sens. Par exemple, dans une guerre, le soutien de l'opinion publique à une cause est un élément fondamental. Le facteur moral, c'est la force, j'allais dire spirituelle, qui peut animer les défenseurs d'un projet. Bon, quand vous construisez, même en dehors des relations internationales, si vous avez un projet industriel, vous n'allez réussir votre projet industriel que si vous travaillez avec des équipes qui sont complètement motivées. Ce qu'on appelle couramment la motivation, ça fait partie des rapports de force moraux. Par conséquent, c'est un ensemble, les rapports de force. Vous pouvez avoir les meilleurs armements de la Terre. Si votre population n'adhère pas à la cause, eh bien ça ne marchera pas. Là, il faut faire aussi très attention, parce que dans les phénomènes de guerre et de paix, vous pouvez avoir un soutien apparent à une cause au début d'un conflit, par exemple, et que tout ceci s'effiloche par la suite. Eh bien, le réaliste, lui, il doit analyser l'ensemble de ces facteurs et il doit les analyser dans la durée. Donc il doit faire de la prévision, il doit aussi prévoir et ne pas se tromper sur l'évaluation de l'adversaire potentiel ou des alliés potentiels. C'est donc quelque chose de très complexe. Le réalisme invite à regarder tout ça dans son ensemble.
Alors c'est très complexe effectivement et j'ai cette question qui me vient, il nous reste deux minutes avant la fin de cette première partie d'émission, Thierry de Montbrial. Vous parliez de moralité. Alors, c'est vrai que les idéalistes sont souvent critiqués parce qu'ils sont trop limités à la dichotomie caricaturale sur le bien et le mal. Comment situez-vous les Américains qui, aujourd'hui, sont convaincus de leur mission dans le monde ?
Alors, d'abord, je ne parlais pas forcément de moralité, parce que le mot moral, il a deux sens. Il y a les mœurs, il y a et la morale au sens de l'éthique. Ce dont je parle, c'est des comportements des gens. Vous pouvez adhérer les nazis, par exemple, dans l'entre-deux-guerres, et en fait, une grande partie de la population allemande adhérait aux objectifs, à la ligne qui était définie par Hitler. Et ça n'avait rien à voir, évidemment, que la morale au sens éthique du terme. Une population chauffée à blanc pour une cause peut l'être pour de mauvaises raisons. Vous voyez ? Donc il faut bien distinguer aussi les deux choses. Et ça, en effet, ça ajoute à la complexité.
Et sur la question des Américains convaincus de leur mission, Thierry de Montbrial ?
La question des Américains, deux choses très brièvement. La première, c'est que nous avons Trump, nous sommes obnubilés par Trump, mais l'évolution des États-Unis, elle ne date pas d'hier. Si vous regardez aussi bien du côté du Parti républicain que du côté du Parti démocrate, il y a des divisions extrêmement profondes qui sont à l'œuvre depuis au moins une vingtaine d'années. Tout ça s'est effectué très lentement. D'autre part, l'histoire des États-Unis montre que les États-Unis peuvent faire des renversements, des retournements très rapides parfois. Vous savez, pendant la guerre froide, la vraie, donc celle dont on parlait tout à l'heure, moi je sais que beaucoup de gens aux États-Unis me disaient « mais attention, le fait que les États-Unis soient restés cohérents pour l'OTAN, pour l'Alliance Atlantique pendant aussi longtemps, 40 ans finalement au total, c'est dans l'histoire des États-Unis quelque chose de tout à fait unique. C'est tout à fait extraordinaire au sens propre du terme. Il faut se rappeler l'histoire aussi.
Merci Thierry de Montbrial. On vous retrouve après le journal. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Thierry de Montbrial est notre invité pour son dernier livre, L'ère des affrontements, les grands tournants géopolitiques. Comment en est-on arrivé là, paru aux éditions d'Uno. Thierry de Montbrial, on va revenir sur la question de l'effondrement de l'URSS qui continue d'avoir toute son actualité. Vous dites à ce propos qu'il fallait s'attendre à des conséquences lourdes et étendues dans l'espace et la durée d'une chute qui n'était pas seulement celle du communisme et de l'empire extérieur soviétique, mais aussi et peut-être surtout de l'empire russe. Vous revenez sur la responsabilité des Occidentaux. On en a déjà beaucoup parlé, les Occidentaux qui, selon vous, n'ont pas pris au sérieux la demande du Kremlin de réviser l'architecture européenne de sécurité dans son ensemble. Mais, et c'est la première fois que je l'entends de vous, les Russes, dites-vous, furent les premiers responsables de leur propre malheur en laissant l'éclatement de l'Union soviétique s'accomplir dans le désordre, voire le chaos.
Oui, c'est un fait collectif, mais il est vrai que la façon dont l'Empire russe s'est effondré est tout à fait extraordinaire. La lutte entre Gorbatchev et Yeltsin, Yeltsin qui finalement tire un trait de plume pour détruire, pour supprimer l'Union soviétique comme une manière en somme de se débarrasser de Gorbatchev, tout ça est assez extraordinaire et nous rappelle que tout peut arriver dans l'histoire, mais effectivement le point de départ il est là, avec pour conséquence que la réorganisation, si on peut employer ce terme, des relations à l'intérieur des ex-républiques socialistes soviétiques s'est faite dans le désordre le plus complet, alors que la sagesse aurait voulu que, avant de reconnaître l'indépendance des différents fragments de l'ex-Union soviétique, ils règlent d'abord, préalablement, leur future relation. Donc, le péché originel de ce point de vue-là, il est en effet soviétique, ou plus précisément russe.
Tout cela s'est passé évidemment très vite, et puis vous le dites également, les Occidentaux ont manqué de prudence au moment de l'effondrement de l'Empire soviétique en endossant progressivement les habits de vainqueurs et en s'engageant dans une politique conquérante. Et c'est quelque chose que vous évoquez de façon tout à fait intéressante, et vous, pour le critiquer, c'est l'esprit de croisade des Occidentaux et leur rejet de l'hétérogénéité. C'est un mot compliqué à dire en radio.
C'est un mot compliqué surtout à prononcer, hétérogénéité. La reconnaissance que le monde est divers. Bon. Et en effet, l'esprit du temps, à la fin des années 80 et dans les années 90, c'était ce que j'appelle l'équation de Fukuyama. Ce Fukuyama donc, qui a inventé, si je peux dire, la fin de l'histoire en parodiant vaguement Hegel, le philosophe. Et son idée, c'est que la combinaison de la démocratie et de l'économie de marché allait conduire le monde vers la prospérité et la paix perpétuelle. Ce qui était une illusion, un certain nombre de personnes, comme moi, mais d'autres, ont dénoncé ça, mais c'était l'esprit du temps qui s'est traduit notamment par l'idée qu'il fallait aller vers la démocratie à marche forcée, et c'est là que la géopolitique s'en mêle, parce que le nœud du problème qui avait été identifié par un certain nombre de gens comme le fameux Zbigniew Brzezinski, américain d'origine polonaise, c'était l'Ukraine, justement. Mais les Russes, même dans la déconfiture qui était la leur dans les années 90, avaient vu déjà bien avant Poutine, que si, au nom de ses principes, l'Alliance Atlantique continuait à se développer vers l'Est, eh bien, cela conduirait à des situations extrêmement graves, des situations de type confrontation pouvant déboucher sur des guerres. Et là, je vous cite un nom, quelqu'un que j'ai bien connu, d'ailleurs, qui a été Premier ministre de Russie, ministre des Affaires étrangères, chef des services de renseignement, etc., qui était Evgeny Primakov, un nom très, très connu pour les gens qui suivent ces affaires-là, et qui avait dit en 1996, donc, si vous voulez, bien avant Poutine, attention, cela sera un casus belli. Ça a été dit par de nombreuses personnes. Mais vous savez, quand on ne veut pas entendre, on n'entend pas. Et malheureusement, il y a des moments On est peut-être d'ailleurs un peu dans un moment de ce genre où il y a une vision dominante qui écrase tout et les prophètes sont inaudibles.
Alors on va parler de la diplomatie, Thierry Monbrial. On a, et on l'a dit dans la première partie de l'émission, on a vu le président ukrainien être humilié à Washington lors de sa rencontre avec Donald Trump. Des négociations en cours pour un cessez-le-feu en Ukraine, autour de la mer Noire également. Quelle place voyez-vous pour la diplomatie aujourd'hui ? Elle suppose, la diplomatie, une compréhension profonde des préoccupations des autres, de l'empathie. Est-ce qu'il y a cela entre Russes et Ukrainiens ? Et au-delà, est-ce qu'il y a confiance, d'après vous, entre les États-Unis et les Russes ?
Alors, confiance, je crois que c'est bien trop tôt pour en parler, mais concrètement, le premier point, c'est que cette guerre ne peut pas durer encore très longtemps. Bon, ce n'est pas possible. L'Ukraine est épuisée et la Russie a peut davantage jouer avec le temps. Ils ont même intérêt à gagner encore un peu de temps parce qu'ils peuvent améliorer leur position, mais ils ont également intérêt à une pause, si vous voulez, et parce que sur le moyen long terme, leur position, notamment économique, technologique et même démographique, etc., sont très affaiblies. Donc cette guerre ne peut pas durer indéfiniment. Deuxième point, c'est qu'il faut distinguer clairement, ce qu'on ne fait pas suffisamment, entre la notion de trêve ou la notion de cessez-le-feu et la notion de paix, ce qui suppose une organisation de beaucoup plus longue haleine, quelque chose qui va beaucoup plus loin en termes de diplomatie. Si on confond les deux, on risque de ne pas comprendre les difficultés actuelles. En fait, les Américains souhaitent une trêve, un vrai cessez-le-feu, avec, dans un deuxième temps, éventuellement des négociations plus poussées sur l'établissement d'une paix durable. Bon, même si Trump, qui n'a pas d'expérience diplomatique à proprement parler, a peut-être tendance aussi à s'en mêler dans les horizons temporels. Bon. Les Russes, pour le moment, jouent aussi la confusion des rôles. Parce que, ce que disent les Russes, c'est, voilà, on est prêt à faire une trêve, bon, mais il faut que une liste de questions, qui sont toujours les mêmes d'ailleurs, soit réglée en même temps. Oui. Par exemple, la neutralisation de l'Ukraine, l'arrêt de l'expansion de l'OTAN, etc., etc., etc. Donc, je crois que pour l'instant, on est encore dans la confusion de ces horizons temporels et il va probablement falloir y mettre de l'ordre dans les semaines qui viennent. Mais à un moment ou à un autre, on retrouvera cette distinction parce que la diplomatie interviendra à ces deux niveaux qui sont distincts. Et comme toujours, on ne peut pas parler diplomatie sans parler en même temps de la force militaire, parce que la diplomatie se fait toujours à l'ombre de la force. C'est peut-être d'ailleurs le problème de l'Europe.
Et alors les conditions, oui, on va en parler, imposées par la Russie, effectivement, sont assez folles. Hein. Fin de l'aide occidentale, désarmement de l'Ukraine. Quel est, d'après vous, le poids réel des Ukrainiens dans ce qui se passe, dans ces négociations, Thierry Monbrial ?
J'ai toujours pensé que l'arrêt final de la guerre et l'entrée dans la grande diplomatie, les Ukrainiens seraient relativement, leur poids serait relativement faible parce qu'ils sont encore une fois épuisés. Maintenant, c'est tout de même en Ukraine que les choses se passent. Par conséquent, il y aura forcément un certain poids, mais ce ne sera pas le poids dominant. D'ailleurs, Zelensky a bien été obligé de se mettre au garde à vous devant Trump après son humiliation. Aujourd'hui, vers qui se dirige-t-il pour essayer de sauver quoi, d'ailleurs, ça peut se discuter. Il se tourne évidemment vers nous, vers les Européens, et la question de savoir ce que nous-mêmes pouvons faire est entièrement ouverte.
C'est la pratique de l'intimidation faite par Donald Trump sur beaucoup de dossiers et ça finit par marcher. En tout cas, c'est une politique voilà, qui donne des résultats. Thierry de Montbrial, est-ce que l'Europe a un moment, avec ce qui se passe là actuellement, a un moment à saisir ?
Alors, l'Europe n'est pas en forme, c'est le moins qu'on puisse dire. L'Europe est, et cela a été hélas prévisible et prévu depuis le début de cette guerre, l'Europe est l'une des grandes victimes de cette guerre, c'est-à-dire un affaiblissement économique dramatique, notamment à travers la situation énergétique, mais pas que. Et nous sommes dans une espèce de fuite en avant nouvelle dans les perspectives d'élargissement, alors que nous n'avons pas toujours digéré les élargissements précédents consécutifs justement à la chute de l'Union soviétique. Et quand on parle de défense européenne, ce qu'on entend par là n'est pas d'une totale clarté. D'ailleurs, les lois, les traités concernant l'Union européenne ne prévoient pas que la Commission ait un rôle quelconque à jouer dans ce domaine qui a toujours été de l'ordre interétatique. Voilà. Alors, je crois que la première chose à faire, c'est de clarifier ce qu'on a véritablement à défendre. Bon, c'est quoi ? Quand vous parlez, on peut parler de l'intérêt vital d'un pays, d'une nation constituée, mais personne ne peut prétendre parler au nom de l'intérêt vital de l'Union européenne. Ça n'a pas de sens pour prendre cet exemple-là. De quelle menace précisément veut-on parler ? L'idée d'une Russie arrivant demain déferlant avec des chars déferlant à Paris, ça n'a pas de sens. Ça n'avait déjà pas énormément de sens, quoi qu'il fallait le prendre tout à fait en compte à l'époque de la vraie guerre froide. Aujourd'hui, ça n'a pas grand sens. Les perceptions du danger, si vous êtes polonais ou balte, ne sont pas les mêmes que si vous êtes espagnol ou italien.
Les uns français, étant en première ligne et les autres en seconde. Ouais.
Voilà. Alors, je crois que parmi les choses à clarifier, on parle maintenant de pays volontaires. C'est une vieille idée d'ailleurs. Mais la question, en termes classiques, c'est quels sont les pays à l'intérieur de l'Union européenne, ou pas seulement à l'intérieur de l'Union européenne, comme la Grande-Bretagne qui a quitté l'Union européenne, faut-il le rappeler, qui sont prêts à former une véritable alliance. En réalité, c'est une alliance dont on parle. C'est une alliance de pays européens qui sont capables de constituer ou de reconstituer des forces militaires dignes de ce nom. Mais vous voyez, tout ça doit être clarifié et ça demandera encore pas mal de boulot. L'autre chose, c'est l'aspect économique. La situation de nos économies, et particulièrement de la France, il faut bien le dire, est mauvaise, et j'emploie un understatement, une litote, et même dramatique peut-être à certains égards. Et comment allons-nous financer ces efforts ? Dans quel délai ? L'aspect industriel, de coopération industrielle, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe qu'on ne le dit généralement. À quel horizon voulons-nous être capables de faire quoi ? D'ailleurs, à quel horizon ? Il est certain que d'avoir une défense européenne, entre guillemets, digne de ce nom, prendra au minimum une dizaine d'années. Et d'ici là, tout ce qui concerne l'Ukraine aura été réglé de multiples manières. Donc pour le moment, nous sommes surtout beaucoup dans des questions de posture, et ceci en prévision de sacrifices qu'on sera amené probablement assez rapidement à demander aux populations européennes. Et alors là, on aura un moment de vérité aussi. Mmh. C'est-à-dire, est-ce que ces sacrifices seront acceptés et comment ? Donc on est vraiment dans une situation extraordinairement compliquée.
Et justement, j'aimerais revenir sur cette notion d'alliance que vous évoquiez précédemment. La question de la solidité de cette alliance, elle se pose. Vous posez la question de l'existence d'une identité européenne suffisamment forte pour que la nouvelle unité politique que nous prétendons construire soit effectivement capable d'agir en tant qu'unité vis-à-vis du reste du monde en toutes circonstances. Évidemment, la réponse est de moins en moins évidente et vous observez une lente dérive vers le chacun pour ses propres intérêts au sein de l'Union européenne.
Mais oui, l'Union européenne. Encore une fois, je reviens à la notion de réalisme. Le réalisme, c'est de regarder les choses telles qu'elles sont. Bon, si je regarde les différents membres de l'Union européenne, on va dire presque tous. Joue chacun pour soi. Bon, vous voyez bien que les pays baltes sont fondamentalement préoccupés, et on les comprend, par leurs propres problèmes et leurs perceptions qui sont liées à toute leur histoire. Un pays comme l'Autriche, qui est un pays extrêmement intéressant, est un parfait exemple de pays qui cherche à ménager la chèvre et le chou pour défendre ses propres intérêts, et qui pourrait le leur reprocher. En fait, une question absolument décisive pour l'avenir de l'Europe, parce que c'est bien de l'avenir de l'Europe dont il s'agit en définitive, enfin l'avenir de l'Union européenne, c'est la relation franco-allemande. Et on en revient toujours là. Et ce qui, personnellement, me préoccupe, c'est que je n'ai aucun doute que les Allemands vont franchir cette période extrêmement difficile de leur histoire, mais qu'ils en sortiront plus fort, parce que les Allemands, ils ont dans toute leur tradition, leur histoire, une fois qu'ils se mettent en position de marche vers un objectif, eh bien, ils le font. Et ils sont capables de faire des réformes aussi, ce qui n'est pas le cas de tous les autres pays européens. Alors, précisément, je pense que la France se trouve, de ce point de vue-là, dans une situation très difficile, parce qu'on voit bien que nos réformes fondamentales, nous ne les faisons pas. Nous n'allons sûrement pas les faire dans les 3 ans ou 2 ans et demi qui nous séparent des prochaines élections présidentielles. Qu'est-ce qui va se passer aux prochaines élections présidentielles? Est-ce que les Français, l'opinion publique française, est capable de comprendre que, par exemple, cette fameuse réforme des retraites, etc., fait partie des conditions sine qua non pour pouvoir redresser l'économie et, par conséquent, consentir de nouveaux efforts? Vous voyez, il y a toutes ces questions qui se posent. Et ce que je crains, enfin, en tout cas, c'est une question qu'il faut poser pour en débattre, c'est que l'Allemagne et la France abordent leurs problèmes économiques durs de façon différente, l'Allemagne le fait mieux, on va dire, que la France, on risque d'avoir une divergence qui, à terme, pourrait être gravissime.
Et la Pologne, dont vous avez parlé rapidement, pour juste évoquer l'idée que les Polonais, de même que les Baltes, étaient en première ligne par rapport à la Russie. La Pologne, un pays qui compte de plus en plus en Europe aussi, et qui peut permettre peut-être une organisation un peu différente, Thierry de Montbrial.
La Pologne est un élément très important de ce que j'appelle la nouvelle Union européenne, celle de post-Union soviétique. Mais la Pologne est fondamentalement animée par ses propres intérêts. Et encore une fois, on le comprend. Mais il n'y a pas que cette menace russe dont on parle tous les jours. Il y a aussi toutes sortes de menaces, notamment du côté du Sud, ou de développement possible, et qui concernent beaucoup plus justement les pays du Sud que de l'Europe, que les pays du Nord. Voyez-vous, donc c'est tout ça aussi qui doit être envisager.
Thierry de Montbrial, une dernière question. Non, je crois qu'on n'a même pas le temps pour une dernière question. Il y en avait plein, et notamment celle d'imaginer un futur européen avec la Russie. Vous serez réinvité pour y répondre. Merci.
Non, mais je peux vous dire un mot quand même. C'est que sur le long terme, il est bien évident qu'il faudra une nouvelle architecture de sécurité européenne avec la Russie.
Merci. Thierry de Montbrial, je rappelle que vous êtes fondateur et président de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, et que votre dernier ouvrage paru aux éditions du Nau a pour titre « L'ère des affrontements, les grands tournants géopolitiques, comment en est-on arrivé là ?» Géopolitique était signé Marie-France Chatin, David Brockway, la réalisation et Cécile Lavolo. La semaine prochaine, nouvel horaire pour Géopolitique, 17h10 en temps universel. En attendant, vous êtes bien sur RFI. Place au Journal Afrique.